Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi je lis et avec vous chaque semaine je partage ce que j'ai aimé, exclusivement ce que j'ai aimé, sinon à quoi bon? Je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs et puis tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué. Histoire de vous restituer en toute subjectivité ô combien assumée mes émotions de lecture, histoire aussi de permettre à celles et ceux à qui la musique causerait plus encore que la littérature, d'oser emprunter cette passerelle que pourtant bien des médias tente d'annuler. Sortir des entre-soi nous ferait le plus grand bien qu'on se le dise. Au sommaire de ce premier numéro de 2018, je ne me fondrai pas d'un quelconque bonne année tiédasse, ni même sarcastique, encore moins ironique. Je laisse cela à ceux que ça passionne. Au sommaire donc de ce numéro, un chef-d'œuvre, ce n'est pas compliqué. Je ne lis presque jamais de la science-fiction et c'est un tort, car là, j'ai pris ma claque en grand. Toxoplasma, recommandé par mon libraire S-Polar à moi et S-Science-Fiction, merci Monsieur Nolive, est signé David Calvo et publié aux éditions de La Volte. Et comme Monsieur Nolive sait faire les choses en grand, il a invité dans sa librairie David Calvo et j'ai sauté sur l'occasion. D'ici une poignée de minutes, il répondra à toutes mes questions au sujet de son époustouflant roman qui s'intitule Toxoplasma. Mais avant même de vous en dire plus et surtout de lui laisser la parole à David Calvo, écoutez donc comment je vous la dirai l'atmosphère de ce roman. Voilà, c'était un court extrait de Vinaigrette de Gonja Soufi aujourd'hui dans Rock'n Page pour vous dire toute la dimension vertigineuse de ce roman de science-fiction, ce cyberpunk que nous offre David Calvo. Que je vous situe un peu l'intrigue, on est à Montréal, elle s'est retournée, a fait sécession et a fait commune à la suite de cette sécession. Les forces de l'ordre veillent et veulent ramener par la force la non-autonomie de la ville. Nikki travaille dans un vidéoclub, elle prescrit à tour de bras des films de série B ou Z dont elle connaît tout l'univers avec une passion contagieuse. Elle est aussi antispéciste et décide de résoudre l'énigme des animaux, d'abord un raton laveur, assassiné en bas de chez elle. Voilà. Et puis il y a Kim, qui est l'ex-petite amie de Nikki, et avec May, donc Kim et May, elles sont des hackeuses redoutables qui s'infiltrent dans les plus grosses entreprises du moment pour rendre un peu de liberté aux citoyens. Car oui, dans ce futur un peu spécial, comme au lendemain des années 80, au détail près que les catastrophes écologiques, les guerres en Europe et les technologies auraient continué d'évoluer, on se retrouve avec un internet auquel le Pékin lambda, vous et moi, n'a plus accès, celui-ci étant la vitrine des États et des multinationales simplement. J'en profite pour vous glisser que sur le sujet du virtuel, Calvo se charge de nous questionner sur demain et sur ce que nous aurions à sauver de cette révolution, la nôtre, avant qu'il ne soit trop tard, et que c'est bien, et que c'est archi, archi bien vu. Je vous rappelle, vous apprends avec plaisir aussi que Calvo est une auteure qui est aussi, quand elle n'écrit pas, game designeuse. Je dis elle, car David Calvo, c'est son nom d'auteur, elle est à ce jour, elle est transgenre, et son prénom c'est Sabrina, qu'on se le dise. Bon, pour en revenir au texte et à la narration, le roman nous entraîne dans de magnifiques séances de hacking, nous entraîne aussi au cœur de Montréal, qui serait à la fois sublimée et réduite à son plus simple élément par Calvo et nous traîne à toute vitesse dans l'enquête au sujet des animaux tués. Et ça finit par ressembler à un incroyable festival de musique rock électro où les machines nous offriraient des Larsen effrayants, le tout sur un fond des années 80, autant que de nappes de son quasi flottantes. Et ce rythme-là, on pourrait très bien l'entendre comme ça en somme. C'était Atomic de Blondie pour vous dire tout le rythme de ce roman de science-fiction époustouflant que nous offre David Calvo, paru chez La Volte et qui s'intitule Toxoplasma. Et puis d'ailleurs, puisqu'on en parle, comme j'ai beaucoup de chance, il est grand temps pour moi de recevoir David Calvo.
Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Merci surtout pour Toxoplasma qui m'a vraiment, vraiment, vraiment époustouflé. Vraiment. Alors,
merci.
L'action de votre roman se situe dans un Montréal futur. Mais pas si futur que ça, parce qu'on n'est pas bien loin de l'univers, enfin, on n'est pas bien loin d'un présent qu'on pourrait tout à fait comprendre, en fait. Enfin, c'est voilà. Pour autant, on est loin de l'univers de Marseille et de Disney de tes précédents ouvrages, en fait. Comment est-ce que toi tu dirais qu'il est né ce roman ?
Oh, ben, j'ai pas été aller chercher très loin. Je suis allé chercher en bas de chez moi, parce que moi, j'habite dans l'appartement dont un des personnages principaux du livre, Nikki, elle vit dedans, donc c'est mon appart, et le bouquin a commencé, donc moi je vis à Montréal depuis 3 ans maintenant, et le bouquin il a commencé avec littéralement le meurtre de ce raton laveur qui est au début du livre, et qui était un véritable meurtre qui est vraiment arrivé, bon il n'est pas arrivé à côté de chez moi, il est arrivé au parc La Fontaine, chez Laga, et puis j'ai lu ça un matin dans le journal, et j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire, je me suis dit tiens j'ai envie de faire commencer quelque chose avec ça, et c'est parti de là, donc j'avais pas vraiment d'idée sur... Quand je commence un livre, en général, je me laisse guider par mon instinct, des fois ça peut être un élément du quotidien, des fois ça peut être un personnage qui s'impose directement, ou ça peut être un concept, mais ça dépend en fait, quoi. Là c'était le meurtre d'un raton laveur, j'avais trouvé ça tellement abominable et fascinant, je me suis dit que voilà. Quoi.
Alors Toxoplasma c'est un cyberpunk que moi j'ai trouvé particulièrement féministe. Comment est-ce que toi tu le présentes ce roman ? Comment t'en fais le pitch en fait ?
Oh moi je reprends tes mots, j'utilise le mot de proto-cyberpunk féministe. Alors vu ce que moi je suis en train de devenir, je dirais plutôt un cyberpunk transféministe vu que c'est mon point de vue là. Mais mes personnages sont des femmes qui ont internalisé la société et ont internalisé l'oppression de la société, donc je me mets à leur place en fait là-dessus quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise le proto-cyberpunk féministe. Proto pourquoi ? Parce que le cyberpunk c'est quelque chose que moi qui me fascine depuis toujours mais c'est très difficile à qualifier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ce courant esthétique conceptuel du début des années 80 qui s'est fini très violemment en 86 ? Est-ce que c'est cette espèce d'image un peu dégradée qu'on a du cyberpunk qu'on retrouve notamment dans le jeu vidéo ou dans toutes ces espèces de films de SF un peu mainstream là en cuir, voire même du Matrix. Enfin voilà, ce que Matrix c'est. Pour moi, c'est pas ça le cyberpunk. Pour moi, le cyberpunk c'est vraiment l'essence C'est vraiment l'essence de l'interaction entre ce que l'homme a de plus, ce que l'humain a de plus primitif et ce que la machine a de plus primitif en fait. Donc moi je reviens vraiment au premier Gibson, tout premier Gibson quoi. Je veux dire un romancien, aller graver sur chrome peut-être et une couple de nouvelles qui ont été faites à l'époque par Sterling ou Rudy Rucker, des gens comme ça quoi.
Alors tu nous mets face à 3 personnages féminins et une ville. Qui est d'ailleurs, pour moi, un des personnages aussi dans le roman, en fait. Il fallait vraiment habiter Montréal pour pouvoir le faire, ce roman. J'imagine que tu as utilisé son fort potentiel pour pouvoir la redessiner complètement, en fait. Pour moi, toute l'histoire de la transformation, je l'ai vue aussi sur la ville, en fait, sur le personnage de la ville, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la ville elle-même, moi je l'ai toujours... C'est, quand on vit à Montréal, on a vraiment l'impression d'être vivre à l'intérieur de quelqu'un, enfin, c'est assez flippant. Et c'est vrai que la ville évolue aussi avec ce qui se passe politiquement, puisque donc, c'est une commune qui s'est isolée du reste du Canada et des États-Unis et qui tente de résister. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, Montréal, c'est déjà un peu ça au Québec, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment au Québec, on n'est pas vraiment au Canada, on n'est pas vraiment... C'est un espèce d'endroit un peu, c'est un peu une interzone, quoi. Et du coup, pour moi, Montréal, c'est si j'ai bien compris le sens de ta question, c'est de voir comment est-ce que organiquement un environnement se dégrade ou se réalise, quoi. Et je crois que moi, ce que je vis là-bas, d'abord par rapport à ma propre transformation, moi, en tant que personne transgenre et en tant que résidente là-bas, quoi, moi, je vois que la ville se transforme. Et il y a plusieurs forces qui s'exercent là. Il y a les forces de gentrification qui existent, c'est-à-dire que c'est une espèce de volonté de tout assainir et de faire des condos partout qui se ressemblent, qui sont vaguement modelés sur l'architecture une certaine idée de l'architecture qu'on a de Montréal, résidentielle de Montréal. Il y a aussi évidemment tout ce conflit entre les langues, entre les langues. Il y a ce melting pot de communautés qui est totalement stable. Enfin, c'est assez étonnant le vivre ensemble à Montréal. C'est un lieu magnifique pour vivre avec les gens, quoi. C'est vraiment un endroit où les gens se soutiennent et les gens parce que il faisait moins 40, il y a encore deux jours. Quand il fait moins 40, on a intérêt à avoir des bons voisins, quoi. C'est toujours là. Et du coup, moi je me suis dit comment est-ce que je peux partir de ce tissu social là, quoi, et puis avec une politique libérale très forte. Le Canada, c'est quand même un pays libéral, mais en même temps, il y a aussi des forces réactionnaires qui s'exercent et aussi des forces progressistes qui sont, c'est très à gauche le Québec. J'ai rarement vu quelqu'un, l'extrémisme au Québec, même quand on est dans ce qu'on appelle l'extrême droite et compagnie, on regarde ce qu'on nous on a en Europe, on n'est plus du tout sur les mêmes choses. Donc, c'est. J'ai essayé de prendre tout ça, et j'ai essayé de le pousser après-demain, quoi, et de dire, et si je te pousse là, et si je te pousse dans l'isolation, est-ce que tu fonctionnes toujours ? Et finalement, la grande menace de ce bouquin, c'est pas tant les forces autour, même si, in fine, c'est elles qui arracheront la vie de la ville, quoi, c'est plutôt la culture qui est venue avec la gentrification, quoi. C'est-à-dire cette espèce de qu'on appelle les hipsters. Bon, moi j'aime pas ce terme parce que je le trouve, c'est pas ça, mais cette espèce de pseudo de virtualité qui fait croire qu'on peut rester libre dans le virtuel tout en étant complètement enchaîné par le capital et enchaîné par l'oppression des corps, quoi. Et alors de dire oui, moi je suis anarchiste, mais t'es pas anarchiste, tu vis dans un bureau, tu travailles, tu fais des choses et tout, et même si t'as des idées comme ça, ne prétends pas que tu peux changer la société ou que tu peux, parce que tu ne le feras pas, c'est juste une posture. Ce que Bookchin appelait le anarchist lifestyle et le anarchisme living, quoi. C'est-à-dire c'est la différence entre le fait de se prétendre vivre, et je trouve que justement ça c'est un grand danger aujourd'hui qu'on a, c'est-à-dire à travers les mondes virtuels et à travers les grands univers geek et nerd et même je dirais professionnels, les corporations, l'identité des corporations, des choses comme ça, on se construit des espèces de micro-bulles de réalité comme ça où les gens pensent qu'ils peuvent changer le réel parce qu'ils peuvent changer le réel entre eux, mais le vrai réel, celui qui oppresse les corps et celui qui oppresse le travail et celui qui oppresse la société en son ensemble, il bouge pas et il reste vivant, lui, quoi. Voilà.
Alors, moi, ces personnages-là, je vais me permettre de dire que je pense que Nikki, ce serait pas loin d'être toi. Que Kim et May pourraient être des nanas dont on rêverait, et pourquoi pas toi, de devenir ou d'être, avec un petit côté badass pour Kim et puis May, une espèce de Calamity Jane complètement folle dingue, mais en même temps imparable, en fait. Ces nanas-là, elles vont aussi en fait nous donner une grande leçon malgré tout d'espoir, en fait, qui consisterait à dire t'inquiète pas, en fait, il y a bien un moment où où on trouve le sens.
Alors, je vais essayer d'être court parce que voilà. Oui, tu as raison. Enfin, Nikki, c'est moi, évidemment. C'est-à-dire que c'est moi dans ma maladresse, moi dans mon appréhension de la féminité, dans ma découverte de tout ça, à la fois de l'instinct et à la fois de l'apprentissage. Celle vit dans mon appart. Moi, j'ai fait détective achat, littéralement. Le métier qu'elle fait, je l'ai fait à Montréal. Je continue même l'été, je le fais. Elle est le vidéoclub. Moi, j'ai été élevé dans un vidéoclub par ma mère. Elle a ma culture, elle a mon truc. Donc, oui, c'est moi. Après.
Il n'y a aucune indulgence avec ce personnage.
Bah, ça non, mais que toi, en fait. Très peu d'indulgence avec moi-même en général. Kim, c'est clairement le moi réalisé, quoi. C'est-à-dire si je tends, bien sûr que quand on est transgenre et depuis toujours on tend vers des figures comme ça qui sont des choses qu'on sent en nous et qu'on a envie d'atteindre. Kim, c'est ça. C'est-à-dire c'est la hacker flamboyante, quoi. Elle est tellement dans son trip, elle est tellement pertinente, elle est tellement précise et elle est tellement là, présente, quoi, même si elle est dans le virtuel, que en fait c'est ça, c'est cette espèce de force là féminine qui moi me traverse. Et May, elle existe vraiment, en fait. J'ai pas eu à l'inventer, c'est quelqu'un que je connais, en fait. Alors je l'ai un peu poussé, évidemment, mais j'ai quelqu'un que je connais et que j'admire énormément, et qui est d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce personnage est devenu plus important. Au début, c'était juste un personnage comme ça qu'on voit de temps en temps, qui dit des choses sur les channels, mais on voit pas. Et au fur et à mesure, je l'ai fait sortir des channels, et je lui dis attends, il y a peut-être quelque chose à creuser avec ça. Mais il me rappelle quelqu'un qui sait. Oh, mais bien sûr, mais c'est ok. Et au fur et à mesure, elle est sortie pour à la fin éclater. Et quelque part, on a l'impression qu'à la fin, c'est elle qui fait tout, quoi. C'est elle qui met tout en œuvre, en fait, pour arriver à faire ça, quoi. Et je pense que c'est elle qui porte le sens, vraiment, parce que Kim, elle est dans son trip, elle a découvert quelque chose. Nikki, elle est sur les traces et, oui. et elle essaie de faire du sens. Mais finalement, la personne qui a du sens dans cette histoire, la personne qui saisit le sens et qui sait qu'il ne faut jamais lâcher le sens, c'est May. C'est elle, la force vive de ce bouquin. Quoi. C'est elle qui amène l'énergie
de l'extérieur,
de l'enfance, de la colère et en même temps de l'humour et de la tendresse absolue. Tu vois, enfin cette espèce de paradoxe là de la vie. Mais bien sûr, enfin moi je suis obligé d'avoir de l'espoir. Enfin, je veux dire, je disais tout à l'heure à Peggy qui a donc à travailler sur le livre aussi. Avec moi et qui, je veux dire, la seule chose qui nous sépare du barbarisme aujourd'hui, c'est le libéralisme. Non, mais on est foutu quoi. Mm. Et donc, en faisant ce constat depuis aussi une position de minorité, que donc, moi je fais désormais l'expérience, j'ai intérêt à y croire quoi, parce que sinon moi je finis en camp de concentration quoi, et probablement que nous tous dans cette pièce aussi.
Il y a un vecteur qui est super important dans le roman en fait, c'est Nikki travaille dans ce vidéoclub,
ouais.
Et Nikki est un puits de science en film de série Z.
Ah, un film de merde, on peut le dire.
Mais je ne me serais pas permise.
On peut le dire.
Tellement on y croit, tellement on les vend, tu finirais bien par aller en chercher un, quoi. Mais ça, c'est un véritable hommage. Et en même temps, les citations, la référence à la musique aussi que tu fais dans le roman, en fait, est-ce que l'ensemble serait là pour symboliser un vrai attachement à ton passé, quoi qu'il arrive et...
Je crois que la question, elle est centrale dans le bouquin de la nostalgie, parce que justement, ce truc de hipster, je vais utiliser ce terme-là, même si je ne l'aime pas, hein, ce truc-là, cette espèce de succès d'année de réalité qui a été vendu, et puis vendu comme étant la réalité, et puis vendu aux gens comme étant l'autonomie de la personne et l'autonomie politique et tout, je pense qu'il se repose beaucoup, beaucoup sur la nostalgie et sur le fait que c'était mieux avant, notamment dans les années 80 et 70, quoi. Ça, c'est un truc dont ces générations-là, c'est un truc de fou, quoi. Et moi, je crois que je suis moi aussi victime de ce syndrome-là, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui m'ont marqué et qui m'ont fait étaient dans les années 80, quoi. Donc, moi, j'ai découvert la musique dans les années 80. Je vous un amour, je vous à Kate Bush, un amour sans frontières, même si la tendance a un peu déconné ces derniers temps. Je suis là-dedans, donc je pense que l'attachement à mon passé, il est très très fort parce que ça a été un moment donné où déjà j'étais en contact avec ma mère très étroit, c'est-à-dire dans ce vidéoclub, c'est quelque chose c'est quand même une expérience qui m'a énormément marqué, quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé, alors maintenant, c'est la dernière fois que je me posais la question avec un pote, parce que bon, on est un peu des accros justement de films comme ça, et puis on a des VHS et tout, on n'est pas du tout dans la collection, rien à voir, mais nous on aime bien avoir l'image, la vieille image, les vieilles scans, les trucs tout pourris et tout, et on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout ce qui est même les pires merdes qu'on était sur les années 80 sont des meilleures merdes qu'aujourd'hui, quoi. Je pense que légitimement, et c'est ça où j'essaie de me placer, c'est que je pense que légitimement, il y a une vision qui a été aujourd'hui on fait des films cheap, Sci-Fi Channel fait des films cheap, ils décident de foutre des effets spéciaux et des effets numériques partout, c'est dégueulasse, ils ont cette espèce de sang écarlate pourri, ils ont ces espèces de monstres en images de synthèse pourri, et on se retrouve avec ça partout, et on a finalement des films qui se ressemblent tout le temps avec une direction de photographie qui est exactement la même, etc. Je pense que dans les années 80, avant l'avènement numérique, avec l'utilisation de gens qui essayaient quand même de faire de la direction de photo, même si c'était nul, quoi, bah il y avait quand même, et avec des effets spéciaux faits en carton, je veux dire, avec du bois, de l'eau, des trucs comme ça, on avait une présence, on avait un poids, surtout dans les films d'horreur et de SF, on avait un poids de ces univers qui pour moi existe un tout petit peu plus, en fait, quoi. Et je prendrais une merde des années 80 contre n'importe quelle merde des années 2000-2010, je veux dire, mais sans aucun problème, et je vais même y trouver des choses intéressantes, puisque souvent le manque de budget, l'amateurisme des acteurs et des techniciens et l'urgence des tournages font que des fois il y a des solutions qui apparaissent de mise en scène et de cinématographie qui sont absolument bouleversantes. Le film que je cite dans le bouquin Disconnected, là, qui est un film surréaliste, je veux dire, et pourtant ils essayent juste de faire un thriller, mais ils sont tellement mauvais, ou alors ils sont tellement géniaux, que ça devient une espèce d'objet alien. Aujourd'hui, on fout ça dans un truc d'art contemporain, et on dit que ça a été tourné aujourd'hui, que c'est l'art contemporain, les gens diront, ouais, c'est génial, déconstruction onirique, la vision du réel, machin, tout ça. Non, c'est juste un film de merde, quoi. Mais en même temps, il y a cette espèce de biais, il y a cette espèce de regard en biais, là, qui est appauvri, qui est maladroit, et qui des fois est une fulgurance, en fait, quoi. Et moi, j'ai l'impression que quand je vois ces films-là, je vois un reflet de la réalité qui est vachement plus fidèle que ce que Hollywood et le cinéma nous donnent aujourd'hui. Ils acceptent la décomposition du monde, en fait, quoi, dans ces films-là. Ils acceptent que le fait que tout soit pourri, que tout soit cheap, que tout tombe en pièces. Mais regarde, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tout est cheap. Regarde ce bureau, tout est cheap, quoi. Il y a rien. En 2018, ça ressemble à rien, quoi. Donc, forcément, à un moment donné, je me dis, si le monde vraiment se décompose, alors la mémoire de la décomposition, c'est celle-là qu'il faut aller chercher, quoi. C'est pas l'idéalisation ou quoi que ce soit. Il faut aller chercher ça, quoi.
Alors, le rythme de ton roman est absolument magnifique. Enfin, okay. Mais ça pète dans tous les sens. On n'arrête jamais la course. Y a quand même ces débuts de chapitres là écrits en Italie qui sont comme une espèce de comme une nappe, en fait, un peu, etc. Comment tu l'as pensé, cette construction, en fait? Tu écris comme tu parles ou...
Ouais, je parle vite. Je parle vite avec des moments de fou, c'est ça?
C'est ça.
Okay. Comment je l'ai écrit, je sais pas trop, en fait. Tu sais, je me pose beaucoup de questions au niveau éditorial sur comment intéresser les gens à mes labyrinthes, quoi. Parce que moi, j'aime créer des labyrinthes, quoi. Moi, c'est mon truc, je suis game designer, donc je crée des labyrinthes, je crée des constructs dans lesquels il faut regarder différemment. Et c'est vrai qu'en littérature, en écriture, plutôt, j'ai eu tendance jusqu'ici à faire des labyrinthes un peu opaques. Et souvent, l'opacité, elle tient à la structure. Elle tient à la manière dont les choses sont révélées, au tempo, des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que maintenant que j'ai un peu plus de maturité au niveau de mon écriture et que j'aimerais bien que les gens me lisent un tout petit peu plus, quand même, sans lâcher rien du tout au niveau du concept, au niveau du fond, au niveau même au niveau de la forme. Par contre, au niveau de la manière dont je prends l'attention de la personne qui me lit et je la garde, je pense que ça, c'est quelque chose que j'apprends un tout petit peu à faire en ce moment. C'est-à-dire que j'essaye de vraiment comprendre, me dire, voilà, oui, c'est très beau la suspension, c'est très beau la contemplation, c'est très beau des choses comme ça, mais ça arrive à des longueurs, en fait. Et le problème, c'est que comme je suis sur des concepts qui sont hyper complexes, si je me mets d'avoir des longueurs, je perds les gens, en fait. Et c'était passé sur Elliot, et j'avais eu beaucoup de gens sur Elliot qui m'avaient dit c'est trop long, quoi, alors que le bouquin il est assez petit, en fait. Et sur Colline d'après, on m'a dit c'est trop court, et maintenant celui-là on me dit bon, ça va, donc je me dis ok, je vais, mais en même temps j'ai pas envie que ça devienne une recette non plus. Parce que tu vois, ça fait deux bouquins que j'écris qui sont des espèces d'enquêtes un peu avec une menace machin compagnie. Le prochain bouquin, c'est pas du tout ça que je veux écrire, mais en même temps il va falloir que je retrouve un rythme à l'intérieur de ces choses nouvelles que je fais, ou me dire non, mais je veux pas faire de la contemplation. Et quelque part, si j'admets faire du genre, et si j'aime être dans la littérature de genre, et si j'admets être une écrivaine de SF, c'est aussi parce que je veux que ce soit fun. Moi je me fais chier quand je lis la littérature en général, enfin sauf quand je lis Emily Dickinson, ou que je lis Catherine Mansfield ou des gens comme ça, où là on est dans la contemplation devient beauté pure, et là on n'est plus du tout dans un acte de lire qui est on est dans un acte d'exister, en fait, quand on lit ça. On n'est pas du tout dans un acte de consommation de littérature, quoi. Mais moi, les bouquins traditionnels, ça me fait chier. Moi, quand je lis des romans, c'est des romans de SF que je lis, ou des romans fantastiques, parce que c'est là où je suis, c'est là où je me dis, ouais, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. J'essaie peut-être modestement d'amener une forme de fond contemplatif à une forme qui est un peu plus dynamique, qui pourrait... Mais tout ça, c'est très expérimental. Ça, je trouve, je vais faire un prochain bouquin où il n'y aura que de la contemplation et tout le monde va se chercher. Je vais en vendre trois, quoi. Je me pose pas ces questions-là. Il me semble que pour ce bouquin-là, l'urgence, en tout cas, elle était de mise, et que l'accélération était de mise, parce que voilà, quoi.
C'est ça.
Peut-être que le prochain sera pas comme ça.
Tu ne coupes pas à la question Rock'n'Page.
Ah oui, la fameuse question.
Quel titre de musique choisis-tu pour évoquer ton roman?
The Ship Song de Nick Cave sur The Good Son.
Parfait, bonne réponse. Merci. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history. Every time you come around, come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me.
every time you call around. We talk about it all night long. We define our moral ground. Time you come around, your face is falling sad now.
Oh, you know that... C'était Nick Cave, choisi aujourd'hui par David Calvo pour évoquer Toxoplasma, son dernier roman paru chez La Volte. Si vous avez envie d'un voyage intersidéral, en somme, en terre de féminisme, entendez par là celle par qui le cours des choses peut changer. Si vous avez envie d'un voyage dans le temps, d'un cyberpunk qui sublime Montréal, si les questions de transgenre vous intéressent, vous pourrez trouver toutes les réponses dans ce roman-là, qui est aussi en fait une sorte d'hommage aux années 80, si vous avez envie de beaucoup d'espoir quant au fait qu'un jour ou l'autre, tout finit par prendre du sens. Si vous avez envie de vous poser des questions différentes sur nos capacités à faire bouger les choses ensemble ou pas, alors vraiment, procurez-vous Toxoplasma de David Calvo. Parole de Rock'n'Page, ça vaut le détour. Cette émission touche à sa fin. Merci à Bruno, à la technique. Retrouvez tous les anciens numéros sur le blog qui lui est consacré. Je vous laisse en compagnie des sexy sushis qui me paraissent suffisamment agités et ô combien engagés pour servir par ce dernier titre, le roman de Calvo, Toxoplasma, paru chez La Volte. Prenez soin de vous.